Patrick Pirot, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire le guide des économies d'énergie aux éditions Terre Vivante. Et est-ce qu'il y a pour vous un domaine ou un secteur dans lequel il serait le plus facile ou le plus simple de faire des économies aujourd'hui?
Le secteur dans lequel c'est le plus simple, je dirais, c'est... Ce ne serait pas un domaine, mais c'est plutôt dans les attitudes, vous voyez. On peut considérer qu'il y a les étapes les plus compliquées, c'est d'investir dans des équipements qui vont durer longtemps, une maison par exemple, hein. Mm-hmm. Donc c'est un vrai projet, c'est lourd, on ne fait pas ça tous les jours. Le deuxième niveau qui est plus accessible, c'est celui de l'équipement d'appareils pour
ménager.
Le ménager par exemple, mm-hmm. Mais ménager aussi pour le transport, hein. On va penser à une voiture ou un véhicule, donc ça, ce sont des achats que l'on fait de manière plus courante, mais pas toujours très courante. Et puis le dernier domaine, celui qui est le plus accessible, c'est celui de nos usages quotidiens. Comment est-ce que l'on utilise des appareils, des services, des biens, des services qui sont consommateurs d'énergie et que l'on peut apprendre à mieux consommer. Alors on pense bien sûr à l'ancienne d'éteindre les lumières quand on sort de la pièce, évidemment. Enfin, j'ai presque réticence à le citer, tellement à mon avis ce geste ne devrait même plus être cité tant il devrait être intégré dans nos comportements. Il n'y a aucune raison de laisser une ampoule brûler alors qu'elle ne sert plus à rien. Mais à part ça, donc ensuite il y a tout un tas de gestes que l'on peut faire et qui peuvent faire économiser de manière conséquente l'énergie. Mm-hmm. Le premier poste sous nos latitudes, c'est le chauffage. Le chauffage, parce qu'il représente en gros 70% de nos consommations d'énergie domestique à l'intérieur de la maison. Hein. Et là, on peut faire des économies importantes. Et tout d'abord, en surveillant la température de notre pièce, on considère en gros que à 19 degrés, une pièce est correctement chauffée pour les gens qui vivent normalement dans leur maison, en bougeant un petit peu, en étant un petit peu arrêté, voilà. On a constaté, dans l'espace des 25 dernières années, que la température moyenne des logements en hiver avait dérivé, je dirais toute seule, de 19 à 21 degrés, sans que l'on puisse rechercher une autre réponse que celle d'une forme de relâchement ou d'inattention, je dirais, puisqu'il n'y a aucune raison climatique ne l'explique. Les hivers sont plutôt plus doux, ont été plutôt plus doux au cours des deux dernières décennies.
Oui.
Donc il ne s'agit pas d'une raison climatique, il s'agit d'une sorte de geste de confort, entre guillemets. Appelons-le confort, appelons-le inattention, appelons-le manque d'intérêt pour ce type de consommation-là, enfin, manque d'attention, et voilà, ça dérivait tout seul, alors que bon, on est de manière reconnue par les gens qui font des études là-dessus, tout à fait bien à 19 degrés, et en tout cas, l'humanité n'a pas changé ses paramètres physiologiques en l'espace de 20 ans. Voilà, donc cette température-là, on peut la régler de manière très efficace avec des petits thermostats qui pilotent des chaudières, par exemple, parce que là, en plus, on peut les programmer, et on peut faire des gains qui sont tout à fait importants. Hein. Un degré de température de gagné autour des 19-21 degrés dont je parlais tout à l'heure, c'est 7% d'économie d'énergie. Donc, vous voyez, si on revient de 21 à 19 degrés, on fait 15% d'économie d'énergie de chauffage, qui représente la plus grande partie de nos consommations d'énergie domestique. Donc ça, c'est un poste d'économie important. Alors après, on peut affiner, hein, on ajuste la température dans les pièces. Enfin, il y a un certain nombre de moyens qui sont peu coûteux pour parvenir à maîtriser cette consommation-là. Si je reste dans les gestes, moi, je vais tout de suite du côté de des déplacements, hein.
Oui.
50% de nos déplacements sont des déplacements urbains qui font moins de 3 km. Alors, c'est le moment où la voiture déplace pour moins de 3 km, on les fait en voiture. Hein. Et donc ces déplacements-là, ils sont faits avec une voiture qui est froide, qui consomme jusqu'à 50% plus de carburant, qui émet des polluants atmosphériques et qui émet du gaz carbonique à effet de serre. Il faut faire une réflexion sur ces déplacements-là, tout le monde devrait la faire, et considérer que en deçà d'un kilomètre, il n'y a rien qui est plus efficace que les jambes ou le vélo, finalement.
Oui.
Le temps de démarrer, le temps de mettre sa ceinture, le temps d'aller garer plus loin.
Tout à fait.
Bon, dans certaines circonstances, évidemment, on pourra toujours dire qu'on a gagné. Mais on aura gagné quoi ? On aura gagné 30 secondes sur le parcours, une minute 30, aucun intérêt sur le fond. Il faut vraiment faire sa propre analyse sur ces comportements-là. Et en plus, on est gagnant à plein d'autres points de vue. Hein. Bon, aujourd'hui, les gens qui s'intéressent aux économies d'énergie mettent volontiers en avant que c'est bon pour la santé de se déplacer avec ses jambes ou en vélo.
Tout à fait.
Dans un monde, dans des sociétés où le manque d'exercice a des conséquences très importantes du point de vue sanitaire sur la population. Donc voilà, en tout cas, deux domaines où on peut agir. Il y en a un troisième peut-être que je citerai, puisque ça, en gros, ça couvre les trois chapitres les plus importants de mon ouvrage, c'est la consommation quotidienne. Prenons l'alimentation, par exemple. Prenons l'exemple d'une tomate, qui a été importée d'un pays étranger, d'où elle a dû prendre l'avion, ou alors une tomate qui a voyagé du bout de l'Andalousie pour arriver à Dunkerque, elle a pris le camion pendant plusieurs centaines, donc au moins 2000 kilomètres, eh bien, cette tomate, elle a consommé de l'énergie par le fait de son transport. Et donc, elle a consommé de l'énergie pour son transport, à plus forte raison si elle a été achetée dans une saison qui n'est pas celle des tomates pour nos latitudes, en hiver par exemple. Donc, acheter des produits, des fruits et légumes, par exemple, de saison et de proximité, ce sont des gestes que l'on peut faire pour économiser l'énergie et éviter des gaz à effet de serre. Par ailleurs, on est souvent gagnant du point de vue de la qualité, parce que si moins de transport, la possibilité d'avoir des produits plus frais et dans un meilleur état de maturité, et on est aussi à même de créer des dynamiques locales intéressantes du point de vue de l'emploi, on participe au maintien de l'emploi dans sa région. Et puis voilà, c'est un peu le sens de ce que l'on appelle aujourd'hui les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui sont des collectifs qui se forment autour d'un maraîcher local proche de chez vous, avec une dizaine, vingtaine de consommateurs qui participent à maintenir son activité en lui prenant sa production toutes les semaines, moyennant des tarifs convenus à l'avance, moyennant des coups de main, moyennant aussi une discussion sur les produits qu'on va semer l'année suivante. Voilà, c'est un collectif de consommateurs et de producteurs. Voilà, ce sont des exemples que l'on peut citer. Donc regardez sur les étiquettes d'où proviennent les produits, réapprenez si besoin les saisons de production des fruits et légumes. C'est curieux de voir à quel point c'est une connaissance populaire qui s'est beaucoup estompée, moi je constate autour de moi. Et puis même chose, regardez ces mêmes étiquettes quand vous faites d'autres achats. Est-ce que des produits ont été importés? Si vous, entre un produit qui a été importé d'une destination lointaine, donc qui a très probablement pris l'avion ou le bateau, hein. Le bateau c'est une autre avion, mais enfin bon, en tout cas, on a une indication sur la consommation d'énergie quand on regarde les provenances des produits. Donc on peut également être attentif aux produits qui sont très emballés, par exemple. Voilà.
Sur-emballés,
donc quelquefois on a une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Pour les chocolats, par exemple, c'est un exemple un peu emblématique. Chaque petit chocolat, c'est un petit emballage, puis après il y a un emballage par-dessus, puis après il y a une boîte, puis autour de la boîte il y a un film plastique, et puis... Et pour peu que ce soit un paquet cadeau, on en rajoute une couche. Donc, bon. Mais pour les produits qui sont courants, pour lesquels je dirais, la présentation n'a peu d'importance. Hein. Moi, par exemple, j'achète mes céréales en vrac. Bon, tout va très bien. En plus, elles sont bio et puis ça coûte moins cher que de les acheter dans des boîtes, dans d'autres grandes, dans une grande surface. Donc finalement, quand on regarde bien, c'est aussi une économie financière.
Tout à fait.
Et puis, passage, moins de sacs plastiques, moins de boîtes en carton, moins de... Voilà, les emballages représentent à peu près la moitié du volume de nos poubelles. Et évacuer des déchets, c'est des camions qui tournent, ce sont des incinérateurs qui tournent. C'est aussi en aval, quand les objets ne nous servent plus, que l'on peut générer des économies en n'ayant pas mis dans le circuit des emballages dont un bon nombre sont pas très utiles.
Voilà. En fait, ce que vous nous conseillez, c'est d'être des consommateurs responsables à tous les niveaux. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, il faudrait réfléchir en termes d'économie d'énergie. Comment est-ce que nous consommons? Comment est-ce que nous nous déplaçons? Et quand nous construisons, quand nous rénovons, peut-être choisir vraiment quelque chose de plus bioclimatique.
Alors, voilà, c'est un petit peu l'idée que je vais faire passer dans cet ouvrage-là. On est aujourd'hui à une époque où le dérèglement climatique... une donnée majeure dans nos sociétés, qui devrait influencer de plus en plus les politiques publiques. À notre niveau, nous pouvons faire quelque chose parce que les ménages, en gros, sont à l'origine de la moitié des consommations d'énergie, soit de manière directe, c'est-à-dire quand on fait tourner un compteur, quand on a une chaudière à fioul, on brûle directement de l'énergie, soit de manière indirecte, comme je le citais tout à l'heure, à travers cette énergie cachée qui est consommer dans le transport d'un bien qui vient de loin, etc. Alors, nous sommes donc en capacité d'agir sur ces consommations d'énergie, parce qu'il faut le rappeler, la consommation d'énergie, finalement, c'est un peu comme le sang qui circule dans un corps, c'est ce qui met en mouvement toute la société. Vous achetez quelque chose, il y a besoin d'énergie. Vous utilisez un service, il y a besoin d'énergie pour le faire fonctionner. Donc, toute la dynamique économique, sociale de nos sociétés, elle est irriguée par des consommations d'énergie. Et ces consommations d'énergie, dans une très grande majorité aujourd'hui encore, elles sont d'origine fossile, c'est-à-dire c'est soit du pétrole, soit du gaz et éventuellement aussi encore du charbon. Et ce sont ces énergies fossiles qui, une fois brûlées, émettent dans l'atmosphère le gaz carbonique, qui est le premier responsable de la dérive climatique aujourd'hui. Donc, avoir un regard, avoir une attention sur la question de l'énergie, dans tous les postes, intégrer cette notion, cette dimension-là, c'est se donner les moyens d'être efficace à son niveau, mais à son niveau, c'est aussi, en parlant... à ses voisins, en organisant des émissions de radio comme on le fait maintenant, c'est en propageant la connaissance, des informations, des idées, des conseils que l'on peut faire aussi boule de neige, au-delà de ce que peuvent prendre comme décision les gouvernements, les maires, les conseils régionaux ou généraux sur leur propre domaine de compétences. Nous pouvons faire quelque chose au niveau individuel et nous pouvons faire des choses importantes. Si on y prête attention un peu, on peut assez facilement réduire de 50% sa consommation d'énergie. Alors, ça coûtera quelques investissements, c'est sûr, mais ce sont des investissements qui sont souvent rentables, remboursés par l'économie d'énergie à l'échelle de 8-10 ans, pas plus que ça. Donc, pour des choses qui sont durables comme une chaudière, comme une habitation, eh bien, ce sont des investissements de bon sens. Alors, il faut pouvoir les faire, évidemment. Donc là, après, il faut être en capacité de pouvoir emprunter, parfois. Enfin, il y a des aides financières aujourd'hui qui sont apportées par les pouvoirs publics sur des opérations comme l'isolation d'un bâtiment ou l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc, on peut rentrer dans ces démarches-là, et ce sont des démarches qui sont gratifiantes parce qu'on peut réduire de manière conséquente ces consommations d'énergie et on participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je trouve qu'il est important de faire passer cette idée que on peut agir sur tous les postes. Enfin, il faut voir que notre consommation, nos actions, notre mode de vie a a un impact dans tous ces domaines que j'ai cités, et ce sont des domaines que l'on peut aborder donc. Hein. On peut agir sur ses achats quotidiens, on peut agir sur la consommation d'énergie, l'utilisation de ses appareils dans son logement, on peut agir quand on choisit de faire des investissements à long terme, hein, changer une chaudière par exemple, comme je le citais, choisir son mode de déplacement. Est-ce qu'il faut se racheter une voiture aujourd'hui? Bonne question. Est-ce que l'on n'a pas les moyens de fonctionner en utilisant soit les transports en commun, soit de temps en temps quand on a besoin d'une voiture, mais quand on n'en a pas expressément besoin, on peut s'en passer, ou sinon on en loue une de temps en temps. Voilà, je connais des gens qui ont fait ces calculs-là et qui se sont rendus compte qu'ils étaient gagnants économiquement aussi au bout du compte. Parce que il faut se prendre conscience qu'une voiture, elle reste 95% de son temps stationnée dans un garage ou dans un trottoir. On n'utilise pas sa voiture plus de 5% du temps en usage normal. Il suffit de calculer 5% du temps, c'est une à deux heures par jour, disons, ben voilà, c'est ça, ben le reste du temps, elle ne bouge pas la voiture. Donc est-ce que c'est ça dont on a besoin, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin de services de mobilité d'une manière générale? On a besoin de se déplacer, on n'a pas besoin d'avoir une voiture là, et on n'a pas forcément besoin d'utiliser sa voiture pour faire un certain nombre de déplacements aujourd'hui. Donc c'est une invitation à repenser nos pratiques. On pouvait se le permettre parce qu'on n'en avait pas conscience jusqu'il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, c'est de l'ordre de la responsabilité des citoyens que de se poser la question de mode de vie. Voilà, mais d'une manière désespérante, c'est une responsabilité qui est plus qu'honorable, puisqu'elle ne concerne nous aujourd'hui, mais elle concerne aussi évidemment les générations futures.
Je vous remercie beaucoup, Patrick Pirot, et je conseille vivement à nos amis auditeurs de Radio Éthique la lecture de votre ouvrage « Le guide des économies d'énergie » aux éditions Terre Vivante.